à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerrier et Abdourahman Dia en direct de la capitale américaine, mardi 23 avril 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
Les crises au Soudan et en Libye sont au centre de deux sommets ce mardi en Égypte.
En Centrafrique, des éléments armés du FDPC et d'Abdoulaye Miskine ont pris en otage plus d'une dizaine de personnes.
En Algérie, les arrestations d'hommes d'affaires proches de l'ex-président Bouteflika se poursuivent.
Le groupe État islamique revendique les attentats qui ont fait plus de 300 morts au Sri Lanka.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
Deux sommets africains au Caire sur les crises au Soudan et en Libye. Le président égyptien et président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sissi, appelé à persévérer les institutions au Soudan pour éviter le chaos. Le sommet sur le Soudan sera suivi d'un autre sur le conflit en Libye. Eric Manirakiza.
Dans son discours, le président al-Sissi a dit que l'Union africaine prend en compte les efforts entrepris par le Conseil militaire de transition, de même que ceux des forces politiques et de la société civile pour surmonter la situation critique au Soudan. Devant ses homologues africains, M. Sissi a appelé la communauté internationale à aider le Soudan à faire face au fardeau économique et estimé que les solutions aux crises sur le continent devaient être africaines. L'Union africaine avait menacé le 15 avril de suspendre le Soudan si l'armée ne quittait pas le pouvoir d'ici 15 jours au profit d'une autorité politique civile. La réunion sur le Soudan sera suivie par une autre rencontre sur la Libye. Depuis le 4 avril, le maréchal Khalifa Haftar poursuit une offensive militaire contre Tripoli. Six chefs d'État africains ainsi que Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, participent à ce sommet au Caire.
Et concernant la Libye toujours, au moins 264 personnes ont été tuées et 1266 blessées, dont des civils, depuis le 4 avril dans les combats, bilan établi par l'Organisation mondiale de la santé. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est de la Libye, a lancé le 4 avril une offensive sur Tripoli, siège du gouvernement d'Union nationale.
Soudan, un train transportant des centaines de manifestants est arrivé à Khartoum. Ils sont venus rejoindre le rassemblement devant le QG de l'armée pour réclamer au Conseil militaire de transition un transfert du pouvoir aux civils. L'armée a exigé à plusieurs reprises ces derniers jours que les barrages et checkpoints établis par les manifestants sur les axes menant à son QG soient levés.
En Algérie, l'offensive judiciaire contre les riches hommes d'affaires continue. Le PDG de Cevital, sixième fortune du continent, a été placé en détention provisoire, Clermont-Gibourg.
Propriétaire du plus important groupe privé algérien et première fortune du pays, Issad Rebrab est aujourd'hui sous les verrous. Très diversifié, son groupe emploie 18 000 salariés sur trois continents, dont l'agroalimentaire, le BTP, la sidérurgie, la distribution, l'électronique et l'électroménager. La fortune de M. Rebrab est estimée à 3,8 milliards de dollars selon le magazine Forbes. Le puissant homme d'affaires algérien est soupçonné de fausses déclarations de mouvements de capitaux de et vers l'étranger, de surfacturation et d'octroi d'avantages bancaires, fiscaux et douaniers non justifiés. Depuis la démission, le 2 avril, du président Abdelaziz Bouteflika, la justice a ouvert des enquêtes contre plusieurs hommes d'affaires liés à l'ancien camp présidentiel. Si les activités de Cevital ont prospéré sous la présidence Bouteflika, M. Rebrab était en conflit ouvert depuis 2015 avec les autorités, les accusant de bloquer ses investissements en Algérie.
En République centrafricaine, les attaques persistent sur l'axe Bouar-Garoua-Boulaye, la principale voie de ravitaillement du pays par le Cameroun. Le FDPC, le Front démocratique du peuple centrafricain, a enlevé lundi plusieurs personnes et incendié deux camions de transport de marchandises. À Bangui pour VOA Afrique, correspondance de Freeman Sipila.
Lundi, aux environs de 18h, deux camions d'Iroh transportant des conteneurs tombent dans une embuscade tendue par les éléments du FDPC dans le village de Boré, à une soixantaine de kilomètres de la frontière camerounaise. Les quatre membres de l'équipage, dont on ignore encore l'identité, sont kidnappés. Dans la même soirée, un conducteur de moto est pris à partie par ses hommes armés. Sa motocyclette est brûlée et lui aussi enlevé. Des sources locales contactées par VOA affirment à Baboua, ville située non loin du lieu de l'attaque, signale l'enlèvement de plus d'une dizaine d'habitants du village d'Iba. Ces derniers auraient été enlevés par les éléments du FDPC alors qu'ils se rendaient à pied au village voisin de Fambélé pour participer à la célébration d'un mariage. Pour le moment, on ignore le nombre exact des personnes enlevées, moins encore là où elles sont retenues en otage. C'est la première fois depuis le démantèlement de sa base le 5 avril dernier par la MINUSCA que le FDPC, un des signataires de l'accord de Khartoum, cible des civils. Pour certains observateurs, les otages pourraient servir de moyen de pression au FDPC pour obtenir la libération de ces hommes arrêtés début avril lors de l'attaque de sa base et détenus à Bangui. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission des Nations Unies présente depuis 20 ans dans le pays, va fermer des bureaux et antennes en raison d'une réduction budgétaire pour le prochain exercice. C'est ce qu'a indiqué sa représentante Leila Zerougui. Ces fermetures doivent intervenir d'ici le 30 juin.
RDC toujours, au moins 10 personnes, dont des étudiants stagiaires originaires de Lubumbashi, sont portées disparues après la chute d'une voiture lundi soir près du barrage de la centrale électrique de Nzilo, dans le sud-est du pays. Deux corps ont d'ores et déjà été retrouvés et les recherches reprenaient ce matin.
Dans le nord du Nigeria, des hommes armés ont tué 10 personnes et enlevé deux femmes dans un village de Yarsanta Sherere, dans l'état de Katsina, d'après la police et des habitants. Dimanche soir, des assaillants arrivés en moto ont fait irruption en tirant avant d'incendier des véhicules et des maisons.
Au Sénégal, le procès d'un chef religieux musulman, Cheikh Bétio Tioune, et de 21 de ses disciples pour le meurtre de deux d'entre eux en 2012, est ouvert en l'absence du marabout à l'étranger pour des raisons médicales. Il sera jugé par contumace. Nous y reviendrons dans notre partie magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe État islamique a revendiqué les attentats qui ont tué plus de 320 personnes dimanche au Sri Lanka. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les auteurs des attaques ayant visé des ressortissants des pays de la coalition et les chrétiens au Sri Lanka sont des combattants de l'État islamique, a annoncé le groupe djihadiste via son agence de propagande AMAC. Ces attentats suicides ont provoqué un carnage le dimanche de Pâques dans trois hôtels de luxe et trois églises en pleine messe à Colombo. Les autorités avaient attribué le bain de sang à un mouvement islamiste local, National Tawhid Jamaat, qui ne l'a pas revendiqué. Hier, le vice-ministre de la Défense, Rouhan Ouidjouardene, a déclaré que les premiers éléments de l'enquête montrent que ces attentats ont été commis en représailles aux attaques des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Cette dernière attaque a fait 50 morts dans deux mosquées le 15 mars. Le califat autoproclamé en 2014 par le groupe État islamique en Syrie et en Irak s'est effondré en mars. Mais le groupe djihadiste revendique encore des attentats dans ces deux pays et ailleurs dans le monde.
Le leader nord-coréen Kim Jong-un rencontrera Vladimir Poutine jeudi dans l'est de la Russie. Cette rencontre, la première entre les deux chefs d'État, est un événement dans les relations bilatérales entre les deux pays, a indiqué un conseiller du Kremlin. La rencontre intervient moins de deux mois après le deuxième sommet entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump qui s'est achevé sans accord.
Le président américain, justement, qui effectuera une visite d'État au Royaume-Uni du 3 au 5 juin. Cette visite d'État est l'opportunité de renforcer notre relation déjà étroite dans des domaines comme le commerce, l'investissement, la sécurité et la défense, a souligné dans un communiqué Theresa May, qui compte sur son allié américain après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les militants ont déjà promis d'inonder Londres avec des centaines de milliers de manifestants pour contester la venue de Donald Trump en juin.
Le plan de paix promis par Donald Trump dans l'espoir de parvenir à un accord entre Israéliens et Palestiniens sera dévoilé après le Ramadan. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le gendre et conseiller du président des États-Unis. Jared Kushner est à la tête d'une équipe de la Maison Blanche chargée depuis 2 ans par le président américain de rédiger une proposition de paix pour mettre fin au conflit israélo-palestinien.
Et puis en Arabie Saoudite, 37 personnes ont été exécutées ce mardi. Elles ont été condamnées pour terrorisme selon le ministère de l'Intérieur. Ces exécutions massives ont eu lieu dans 5 régions.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
On passe à l'actualité économique sur le continent. C'est dans la Minute Éco présentée par Nanik Talani.
Le Cameroun pourrait perdre 73 milliards de francs CFA dans le cadre du contrat développement désendettement avec la France. D'après le journal camerounais Repère qui a publié l'information, la perte de ces fonds serait due aux atermoiements de l'État dans la réalisation du projet de drainage pluvial qui couvre 36 quartiers sur un espace de 1592 hectares. Ce projet doit permettre de réduire les inondations dans la capitale économique camerounaise. La Société guinéenne du patrimoine minier est passée sous la tutelle de la présidence de la République et n'est plus sous le contrôle du ministère des Mines et de la Géologie. D'après la Tribune Afrique, cette décision s'explique par le défi de faire profiter aux populations des retombées de l'exploitation minière et répondre à la question environnementale qui se pose. La Sodipam, dont l'État détient 49% du capital, est une société stratégique pour la Guinée puisqu'elle est sa première ressource de devise, d'autant plus que le secteur des mines est actuellement en plein essor. Pour terminer, à partir du 2 mai, la Chine, l'Inde, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, le Taïwan, l'Italie et la Grèce devront cesser d'importer du brut provenant de l'Iran si ces pays veulent éviter de s'exposer également à des sanctions américaines. Donald Trump entend ainsi porter à zéro les exportations de brut iranien et priver le régime de sa principale source de revenus. Mais avec ses partenaires européens, la France se dit déterminée à continuer son accord avec l'Iran et lui permettre d'en tirer les bénéfices économiques aussi longtemps que ce pays respectera l'ensemble de ses obligations nucléaires.
Place sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Cannes des moins de 17 ans, la CAF rejette la réclamation du Sénégal contre la Guinée.
Oui, après sa défaite face au Sili National Cadet sur le rectangle vert le 18 avril passé, le Sénégal avait émis une réclamation contre la Guinée, l'accusant d'avoir aligné 2 joueurs qui ont plus de 17 ans lors de cette rencontre. La CAF a classé cette demande sans suite, un rejet qui signifie donc que la Guinée peut tranquillement jouer sa demi-finale contre le Nigeria. Demain.
La nuit du football africain débarque à Lomé.
Oui, le désormais célèbre événement de récompense et de reconnaissance aux acteurs du football continental se tiendra dans la capitale togolaise le 27 juillet prochain. Le thème de cette 6e édition est « Sport vecteur du développement en Afrique ». 11 légendes et acteurs du ballon rond seront honorés à Lomé. Le Camerounais Roger Mila, les Ghanéens Samuel Koufour et Abedi Pelé, les Nigériens Wanko Kanu et Augustine Okocha, l'Égyptien Mohamed Aboutreka, le Congolais Moïse Katumbi, président du tout-puissant Mazembe, l'Ivoirien Didier Drogba, l'Italien Paolo Maldini, l'agent de joueurs sénégalais Tierno Seidi et le Togolais Emmanuel Adebayor. Un match de gala opposant des gloires du football togolais à des légendes africaines est aussi prévu.
Old Trafford, pas effrayant pour Pep Guardiola.
Oui, le stade de Manchester United n'est pas effrayant, a estimé l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, à la veille du derby mancunien, match en retard de la 31e journée de Premier League. Les Citizens ont remporté 5 de leurs 7 dernières visites en Premier League chez leurs voisins. À titre personnel, Guardiola y a remporté ses 2 premiers derbys de championnat. Le technicien espagnol s'attend toutefois à une réaction de Manchester United demain, après l'humiliation subie à Everton dimanche 4-0. Ce derby est crucial pour les deux équipes. City a besoin de 3 points pour doubler Liverpool dans sa course pour les titres. De son côté, United doit se relancer dans sa course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.
L'ancien club d'Eto au bord de la banqueroute.
Le club souffre et le mot est faible, il est mourant. C'est alarmé l'entraîneur Magomé Adiyev après une nouvelle défaite en championnat contre l'Akhmat Grozny, 1-0. Il en a appelé aux autorités locales pour sauver de la banqueroute le club de Daghestan, une république du Caucase russe. Selon la presse, l'Anzi Makhachkala est endetté à hauteur d'environ 3,5 millions d'euros et peine à trouver de nouveaux sponsors, risquant de perdre sa licence professionnelle. À 6 matchs de la fin du championnat, l'ancien club de Samuel Eto'o est 15e et avant-dernier du championnat.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Abdourahman Dia. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Le nouveau Premier ministre malien Boubou Cissé a pris fonction ce matin lors d'une passation de service avec son prédécesseur Soumaïlou Boubé Maïga. Boubou Cissé a entamé des concertations avec la classe politique avant la formation du nouveau gouvernement. Comment les Bamakois accueillent-ils la nomination de Boubou Cissé? Élément de réponse dans ce reportage de Kassim Traoré.
L'URD, l'Union pour la République et la Démocratie, principal parti d'opposition, dit prendre acte de la nomination de Boubou Cissé. Le parti du candidat malheureux à la présidence, Soumaïla Cissé, félicite le nouveau Premier ministre. Mais l'opposition déplore de n'avoir pas été consultée avant cette nomination. Maître Demba Traoré, secrétaire à la communication de l'URD.
Nous avons tenu à recadrer cela en précisant qu'effectivement, il y a eu des échanges entre l'honorable Soumaïla Cissé, qui est le président de l'URD, et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de leurs échanges, il n'a jamais été consulté ni associé au choix porté sur la personne de Boubou Cissé. Le président ne lui en a pas parlé, il ne l'a pas consulté, il ne lui a pas demandé de lui fournir un nom ou un nom susceptible d'être prise.
Dans les rues de la capitale malienne, la nomination du nouveau Premier ministre est diversement appréciée.
À mon humble avis, il n'a pas cette capacité à répondre vraiment aux défis auxquels les Maliens font face aujourd'hui.
Cet avis n'est pas partagé par cet agent des impôts pour qui Boubou Cissé n'est pas un homme politique.
Bon, la nomination de Boubou Cissé, c'est une bonne chose parce que c'est quelqu'un qui travaille bien. C'est un homme qui n'a pas de parti sans mon passé. Donc, un appel aux jeunes.
Pour le chercheur Baba Dakono, cette nomination intervient dans un contexte particulier, marqué notamment par une contestation sociale.
Le président de la République a opté pour le choix de quelqu'un qui sera accepté par les différents acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, et aussi un technocrate qui est au-dessus de la mêlée politique. Donc le ministre ou le premier ministre Boubou Cissé arrive avec des forces, mais aussi quelques faiblesses, notamment le fait qu'il était au cœur de la contestation syndicale animée par les enseignants signataires du 15 octobre. Mais ces obstacles ne sont pas incontournables et pourra les détruire dans l'avenir.
Lors de la passation de service ce matin, le nouveau Premier ministre a semblé mesurer la portée des attentes.
Je prends la suite, comme vous le savez, dans un moment où le pays traverse des épreuves et des défis qui sont tout aussi importants que complexes. Je pense mesurer le poids des responsabilités, l'immensité de la tâche, ou même des tâches, mais encore plus important, probablement, les attentes ou l'ampleur des attentes du peuple malien vis-à-vis du gouvernement qui va voir le jour dans les jours à venir.
Après la passation des services, Boubou Cissé a aussitôt entamé les concertations avec les forces politiques en vue de la composition du prochain gouvernement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Sénégal, début du procès d'un chef religieux très influent, Cheikh Bétiou Thioune, et de 19 de ses disciples pour le meurtre de deux personnes en 2012, un procès qui s'est ouvert ce mardi. Procès très médiatisé au Sénégal et s'est ouvert en l'absence du marabout à l'étranger pour raisons médicales. Il doit durer jusqu'au 2 mai à Mbour, à 80 km de Dakar. Pour comprendre les dessous de cette affaire, il s'agiront d'un joint Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International au Sénégal.
D'abord, c'est un procès qui arrive après 7 années que ces événements ont eu lieu, après de multiples grèves de la faim que les co-accusés de Cheikh Bétiou Thioune ont observées à la prison de Kiev. Nous-mêmes, Amnesty, la Rado, la Ligue sénégalaise, ont fait au moins 3 communiqués de presse pour dénoncer leur détention provisoire qui devenait très très longue. Finalement, ce procès a lieu en l'absence du marabout. Nous pensons que tout de même ce procès doit se tenir parce que les conditions sont quand même réunies pour que la vérité puisse éclater lors de ce procès. Une instruction qui a été menée de main de maître, qui a été bouclée il y a plus de 5 ans. C'est pour des raisons politiques simplement que ce procès n'a pas été organisé.
Ces adeptes ont constitué un électorat important pour le pouvoir en place. Pensez-vous qu'il pourra être jugé?
C'est le défi auquel la justice sénégalaise est confrontée. Tous les Sénégalais sont en train d'observer aujourd'hui comment la justice va traiter cette affaire. Le marabout avait quand même été arrêté et emprisonné. C'est pour des raisons médicales qu'on lui a accordé la liberté provisoire. Lui, il n'est pas resté longtemps en prison pour une liberté provisoire. Et il avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Il y a quand même 2 jeunes Sénégalais, des pères de famille qui ont été sauvagement tués, enterrés, vivants. Et les familles sont là. Les familles crient justice, demandent à ce que justice soit faite. Quelle que soit, n'est-ce pas, la qualité des personnes mises en cause, si elles sont déclarées coupables, elles doivent payer pour les crimes pour lesquels elles ont été déclarées coupables.
Pouvez-vous nous expliquer quelle est l'influence de Tiantakoune?
Il a beaucoup de monde derrière lui. C'est l'un des, en termes d'adeptes, c'est quand même l'un des chefs religieux qui a le plus d'adeptes au Sénégal. Il a énormément d'adeptes au sein de la diaspora sénégalaise. À cause de cela, évidemment, le président actuel n'a jamais voulu que le procès ait lieu avant les élections présidentielles. On n'est pas surpris que surtout après l'élection du 23 février, on ait enrôlé l'affaire. Donc, il s'agit maintenant donc de la juger et de faire en sorte que la qualité du marabout ne puisse en aucune manière lui garantir l'impunité. Parce qu'il y a quand même 19 autres personnes qui sont co-accusées. Ces événements se sont passés au domicile du marabout. C'est à nous de voir comment cela va être fait.
Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Libye, les combats continuent près de 3 semaines après le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli. La crise libyenne est au cœur d'un sommet africain au Caire, sous la houlette du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sissi, président en exercice de l'Union africaine. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les grandes puissances sont très divisées sur le sujet. Pour une explication, Idriss Fall a joint Riyad Sidawi, directeur du Centre de recherche sur le monde arabe à Genève.
Tout d'abord parce que l'État libyen n'existe pas. Alors en Libye, on sait bien qu'il y a des micro-États ou des micro-pouvoirs partout, même Tripoli, est partagé par plusieurs milices. Le maréchal Khalifa Haftar a une armée nationale plus structurée, plus organisée et plus disciplinée que les milices de Fajr Libye à Tripoli. Je pense qu'il y a certains États qui ont compris que la solution politique n'est pas pour le jour. Ça veut dire qu'il y a eu des négociations Sirat au Maroc, des négociations à Genève 1, 2, en Égypte, en Tunisie, mais en vain toujours, il y a eu l'échec des politiques. Donc maintenant, on parle de la solution militaire.
C'est ça qui explique que Donald Trump a appelé le maréchal Haftar et que le GNA accuse Paris de soutenir aussi le maréchal Haftar.
Oui, Paris a manifesté son soutien direct ou indirect vis-à-vis de l'armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar. Donald Trump aussi, dans un tweet, il a dit que Haftar a lutté contre le terrorisme, ce qui veut dire pour les Américains ceux qui luttent contre le terrorisme international sont des alliés objectivement, mais l'Italie, par exemple, elle est contre. Haftar, l'Italie a des bons rapports avec les islamistes de Misrata, la Grande-Bretagne a des bons rapports avec Fajr-Libye à Tripoli. Au plan régional, on voit que l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite soutiennent Khalifa Haftar. Or, c'est le contraire, la Turquie et le Qatar soutiennent les milices de Tripoli, Fajr-Libye, qui sont composées en plupart des frères musulmans ou même des islamistes d'Al-Qaïda comme Abdelhakim Belhaj.
Le Tchadien Idriss Déby Itno aussi a affiché son soutien à Khalifa Haftar.
Oui, évidemment. La Libye a plusieurs voisins, que ce soit l'Égypte ou l'Algérie ou la Tunisie ou le Tchad ou le Niger. Ces États aussi ont le droit d'un regard à ce qui se passe en Libye parce que ça fait partie de leur sécurité nationale. Et n'oublions pas aussi la Libye devenue un bastion des mouvements des terroristes, que ce soit de Daesh ou d'Al-Qaïda. Certes, Daesh a été éliminé à Syrte, mais pour retrouver d'autres poches en Libye.
Mais est-ce que Khalifa Haftar peut gagner la guerre? Parce que son offensive, il l'avait lancée depuis le 4 avril et il n'arrive pas à prendre Tripoli.
La guerre des villes, ce n'est pas facile. La bataille des grandes villes, surtout une grande ville comme Tripoli, ce n'est pas donné. Haftar ne va pas gagner cette guerre dans 24 heures, même si elle la gagne. Après aussi, il y aura des résistances de ces poches islamistes. Surtout, nous savons bien que les islamistes sont déterminés, bien armés aussi, ils ont un soutien à l'extérieur, donc la bataille n'est pas facile. Mais apparemment, la conjoncture internationale est en faveur de Maréchal Khalifa Haftar, mais la solution finale en Libye doit être une solution politique, malgré les victoires militaires. Mais à mon avis aussi, il faut une victoire militaire qui aboutit à une réconciliation nationale et à une solution politique.
C'était Riyad Sidaoui, directeur du Centre de recherche sur le monde arabe à Genève.
Le président américain Donald Trump, dans sa bataille contre l'immigration clandestine, a ordonné à son administration de sévir contre les dépassements de visa des étrangers qui entrent légalement dans le pays, mais restent après l'expiration de leur visa. Selon les dernières données de la sécurité intérieure, plus de 1,2 million d'étrangers ont dépassé la durée de validité de leur visa entre 2016 et 2017. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint dans le Maryland maître Joseph Fa, spécialisé en droit sur l'immigration.
Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est à quelques mois, 16 mois des élections. Il est en train de recommencer avec notre politique d'immigration pour essayer de susciter de l'émotion à ses électeurs. Parce que la promesse qu'il a faite du côté du Mexique ne fonctionne pas. Il faut trouver une autre politique. Donc ce n'est qu'une simple promesse électorale et je ne pense pas que ce sera une politique qui va vraiment survivre, même sur le plan légal.
Si cela, cependant, pouvait être possible, il envisagerait notamment dans ce texte de punir les pays dont les citoyens ont des taux de dépassement élevés. Comment analyser ce point particulier?
Je m'intéresse bien à savoir comment est-ce que cela sera fait. Peut-être à l'imposition des sanctions, comme les Américains savent bien faire. Mais vous octroyez des visas aux citoyens qui vous le demandent de façon légale et qui viennent dans le pays et qui, pour une raison ou pour une autre, décident de ne pas rentrer. Et la plupart de ceux qui décident de ne pas rentrer trouvent le moyen de s'installer ici de façon très légale. Ils vont certainement demander l'asile. On a dit qu'il y a environ plus de 10% de OVST pour les pays comme le Djibouti, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad. Mais ce sont des pays qui sont en voie de développement, parfois menacés par des guerres. Parfois, ils viennent ici pour demander de l'asile. Quoique, au départ, ils ont demandé un visa touriste ou alors un visa d'affaires. Et ils arrivent ici, les conditions dans leur pays sont telles qu'ils ne peuvent plus retourner là-bas. Donc, je ne vois pas très bien en quoi est-ce que la souveraineté d'un pays comme le Tchad ou bien la souveraineté d'un pays comme le Bénin serait souffrir des conséquences du fait qu'un citoyen béninois est venu ici et a décidé de ne pas retourner dans son pays. Ce que le président peut faire, c'est de, si quelqu'un n'a pas une demande légitime d'installation, bien d'immigration ou bien d'insertion ici aux États-Unis, la demande, lorsqu'elle n'est pas accordée, vous pouvez donc simplement lui demander « Ok, vous avez le droit de rentrer chez vous ». Si le gouvernement n'est pas content du fait que les citoyens d'un pays, le Tchad, Djibouti, s'installent ici à perpétuelle demeure, vous pouvez, Si vous ne leur accordez pas les papiers, naturellement, comme on sait, des mesures de rapatriement. Je me demande bien comment sera cela mis en œuvre sans que cela entrave la relation commerciale et même diplomatique entre les deux pays.
Il a demandé donc au secrétaire de la sécurité intérieure de soumettre des plans et comme notamment obliger les voyageurs étrangers à déposer des bons d'admission qui seraient remboursés une fois qu'ils quitteraient le pays. Au niveau légal, est-ce que cela a une valeur quelconque? Est-ce que ce serait acceptable ou pas?
Je ne pense pas qu'il y ait une disposition légale qui l'empêche de déposer les bons. Parce que vous savez, même ceux qui viennent ici de façon illégale, qui traversent la frontière du côté du Mexique et qui sont arrêtés, détenus, parfois pour sortir des zones de détention, ils déposent des bons qui garantissent leur retour pour subir devant la justice. Lorsque vous partez en justice et que vous gagnez votre procès, vous avez une autre procédure pour rentrer en possession de votre bon. Et en ce moment-là, on vous paye avec des intérêts. Je ne sais pas jusqu'où cela sera légal. Encore faut-il que les gens soient en mesure de payer le bon.
L'avocat Joseph Fah dans le Maryland.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno, console Sidrak Franklin, présentation Morgane Guériec et Abdourahman Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Afrique, les infos.